plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. On va parler des défis, des épreuves dans la vie, et je dois avouer que c'est un défi pour moi de pouvoir passer ce moment avec vous, parce que j'ai la chance, la possibilité, le privilège de pouvoir aller enseigner le livre de Jacques dans différentes écoles publiques en Europe et aux États-Unis. Et j'ai dû, j'avais comme défi, réduire 2h30 d'enseignement dans l'espace de 30 minutes. Et dimanche dernier, quand j'ai préparé, enfin, quand j'ai prêché ce message, j'ai dit, parce que auparavant j'étais expert comptable, j'ai dit, ça va être 27 minutes. Et donc il y a une dame dans notre assemblée qui a chronométré mon message, et il s'avère que c'était entre 30 minutes et 31 minutes. Donc voilà, vous savez environ combien de temps on a ensemble pour l'étude du début du livre de Jacques. Donc c'est une série suivie qu'on va faire pendant 4 mois, donc jusqu'en fin novembre, avec une pause pendant l'Avent, et puis on termine, vous allez terminer fin janvier. Donc c'est le début d'une série suivie du livre de Jacques. Le livre de Jacques, c'est un des plus connus, mais aussi plus contestés livres du Nouveau Testament. Donc il y a une certaine personne historique qui a dit que le livre de Jacques est l'épître de paille. Est-ce que vous connaissez quelle personne renommée ou reconnue qui a dit ça du livre de Jacques? Oui, c'est un Allemand. C'est un Allemand, l'Allemand réformateur le plus connu, Martin Luther. Il n'aimait pas, et heureusement, moi je ne vais pas partager le message à propos du texte dans le livre de Jacques qui a causé des problèmes. Pour lui, ce sera Didier dans quelques semaines. On peut dire plein de choses à propos de ce livre de Jacques, mais c'est un livre qui est très pratique, très terre à terre, avec beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations qui parlent de la vie quotidienne de la foi en Jésus-Christ. Il faut savoir que le livre de Jacques manque de la structure. Les théologiens, à la fin, ils disent il n'y en a pas. Il n'y a pas de structure. Mais moi, j'ai beaucoup de sang allemand. J'arrive pas à apprendre si je ne trouve pas de structure dans ce que j'étudie. Donc, Michael m'a demandé, est-ce que tu as un plan pour le livre de Jacques? Et je dis, oui, j'ai un plan. C'est un peu forcé, parce que Jacques, il commence un thème, il laisse tomber, il reprend plus tard. Donc c'est pas si évident que ça, mais la structure que je vous propose et qu'on va garder pendant ces 4 mois d'études de ce livre, c'est un peu artificiel, mais c'est pas faux. Enfin, la structure existe dans une structure qui n'existe pas, si je peux dire comme ça. J'espère que vous allez mieux comprendre dans quelques instants mon propos. Pour démarrer, je vous pose 3 questions. Qui était Jacques? Dans les cours que je dispense à des filles et ailleurs, je dis il n'y a jamais de mauvaises réponses, il y a juste certaines réponses qui sont meilleures que d'autres. Donc, qui était Jacques, l'auteur de cette épître?
Un homme.
Un homme. Exact. Mais quel genre d'homme? Demi-frère de Jésus. Donc, très bien. La semaine dernière, il y a une dame qui a dit le frère de Jésus. Non. C'est le demi-frère de Jésus. Si vous ne comprenez pas, on peut en parler après. Il était le dirigeant de l'église primitive à Jérusalem lors du début de l'église primitive. Donc c'était une période très difficile. Et donc on voit dans le livre des Actes, chapitre 15, il y a le concile à Jérusalem où Jacques y présidait parce qu'il était le responsable. Il y avait Paul, Barnabas et Pierre. Il y avait tous les grands noms. Mais c'est Jacques, puisqu'il était le responsable de l'Église à Jérusalem, qui a présidé cette concile-là. On sait aussi qu'il a subi le martyre en 62 après Jésus-Christ. Deuxième question, à qui a-t-il écrit? Vous avez la réponse dans vos Bibles, chapitre 1, verset 1. il a écrit aux 12 tribus dispersées. Donc, il a écrit à la diaspora. Qu'est-ce que c'est la diaspora? Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les 12 tribus dispersées, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est les juifs messianiques qui vivaient en dehors de la Palestine. Donc, le christianisme s'est éparpillé dans le bassin méditerranéen, et les juifs messianiques, donc les chrétiens, sont partis, ils étaient parfois ailleurs, et lors des voyages missionnaires, on voit dans le livre des Actes, il y a des païens, mais aussi les juifs qui sont convertis au christianisme. Donc c'est à la diaspora à qui Jacques écrit. Donc ça veut dire qu'ils étaient, haïs par les païens, mais ils étaient aussi haïs par les juifs qui ne s'étaient pas encore convertis au christianisme. Et donc, d'après notre lecture du livre de Jacques, on peut induire, c'est le mot, qu'il y avait pas mal de personnes à qui il écrivait qui étaient de moyens modestes, et qu'il y avait certains qui ont été opprimés par les riches. Chapitre 5, versets 1 à 6, c'est un passage très, très difficile. Je ne me rappelle plus qui a choisi ce texte-là, mais c'est très compliqué à comprendre, mais il faut bien le mettre dans le contexte du livre de Jacques, et on peut avoir, à mon sens, une bonne interprétation. Troisième question. Pourquoi est-ce que Jacques a choisi d'écrire cette lettre? Premièrement, il semblait que son auditoire expérimentait des difficultés dans sa vie personnelle, notamment dans ses relations avec autrui, et en particulier entre frères et sœurs en Christ. Ils ne vivaient pas ce qu'ils disaient au sujet de leur foi, car ils vivaient trop dans le monde dans lequel ils vivaient. Et donc Jacques, il a évoqué une raison primaire de tous ces problèmes qu'ils expérimentaient. Il adresse la maturité spirituelle comme le problème le plus important. Il utilise le mot telios en grec, qui est traduit souvent par parfait, selon les versions, parfois c'est adulte, mais ce mot telios en grec ne veut pas dire être parfait dans le sens être sans péché. Il veut dire être adulte, complètement développé, entier, équilibré, mûr. La maturité spirituelle est un des plus grands besoins dans nos églises aujourd'hui. On peut constater que dans nos églises, il y a beaucoup d'enfants, mais pas beaucoup de personnes, de chrétiennes mûres, telios, adultes, complètement développées. Et dans les cinq chapitres du livre de Jacques, on va regarder cinq caractéristiques d'un chrétien mûr. Voilà la structure qui est, comme je vous ai dit, un peu forcée, mais le contenu est là. Et les idées sont présentes dans notre lecture du livre de Jacques. Et donc, la première caractéristique ou premier signe d'un chrétien mature, selon chapitre 1 du livre de Jacques, c'est qu'il ou elle est patient dans l'épreuve. Et donc, je vous propose qu'on lit ensemble les 8 premiers versets du chapitre 1 du livre de Jacques. Jacques 1, verset 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte, téléos, parfait, et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Il y a une expression en anglais, « When life gives you lemons, make lemonade ». Quand la vie te tend des citrons, faisons de la limonade. Et c'est très facile à sourire à cette expression, n'est-ce pas? Et beaucoup plus facile à sourire qu'à la mettre en pratique. Mais la philosophie qui est derrière cette expression est solide, voire biblique. Tout au long de la Bible, on voit des hommes et des femmes qui ont pu transformer leurs défis, leurs épreuves en victoires. Au lieu d'être des victimes, ils sont devenus des vainqueurs. Et Jacques nous dit que nous aussi, nous pouvons expérimenter la même chose aujourd'hui. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons connaître la victoire et le résultat de ces victoires dans notre vie vont nous amener à la maturité spirituelle. Et donc, dans ces trois premiers versets, Jacques, il nous donne trois principes essentiels pour pouvoir transformer nos épreuves en victoire. Donc, verset 2, on a cette idée de compter. Ayez une attitude de joie. Et j'ai lu quelque part, je ne peux pas vous dire où, donc je ne cite pas mes sources, mais ça ne vient pas de moi, juste pour que vous le sachiez. Notre perspective détermine le résultat. Et notre attitude dans une situation quelconque détermine l'action. Notre action, notre attitude dans une situation quelconque détermine notre attitude. Notre attitude détermine notre action. Verset 2, j'ai répété à 3 fois, 4 fois peut-être, il y a un mot que Jacques a utilisé qui est très important pour nous tous dans cette pièce en tant qu'enfants de Dieu. Ce n'est pas si, mais quand. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être surpris quand nous sommes confronté à l'adversité. Alors, ce mot « compter » en grec, c'est un terme financier qui signifie « évaluer » ou « considérer ». Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves dans la vie, nous devons les évaluer en tenant compte de ce que Dieu y fait pour nous et de ce que Dieu il est pour nous. Mais comment pouvons-nous faire cela concrètement parlant? Parce que la théorie est bien belle, n'est-ce pas? Mais comment, quand nous nous retrouvons dans une situation difficile, dans une épreuve, comment est-ce que nous pouvons évaluer cette situation en tenant compte de ce que Dieu fait pour nous et de ce que Dieu est pour nous? Une troisième idée, ce ne vient pas de moi, mais c'est l'idée que nos valeurs déterminent notre évaluation. Dans n'importe quelle situation dans laquelle nous nous retrouvons, nos valeurs personnelles vont déterminer notre évaluation de la situation. Alors, si nous accordons plus de valeur à notre bien-être, et à notre confort, qu'à notre caractère, alors le défi va bien nous perturber. Si nous accordons plus d'importance au matériel et au physique qu'au spirituel, nous aurons du mal à en tirer de la joie dans une situation d'épreuve. Si nous vivons que pour le moment présent et que nous oublions l'avenir, alors les épreuves nous rendront amères et pas joyeux. Si nos valeurs visent plus loin que le bout de notre nez, quand les épreuves arriveront, nous pourrons, par la grâce de Dieu et par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, adopter une attitude de joie. On ne va pas faire semblant, these are not the joys you're looking for, on va pas faire abstraction de l'épreuve qui est en face. On ne va pas essayer de s'hypnotiser, tout va bien, tout va bien. Non, 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 tout va pas bien. Mais on regarde les épreuves avec les yeux de la foi tout en cherchant à avoir une attitude de joie. Mais franchement, c'est pas naturel, c'est pas normal. Jacques nous dit, ayez une attitude de joie quand vous vous trouvez dans des situations difficiles. C'est pas normal. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir véritablement la joie dans l'épreuve? Alors, le deuxième principe qu'on trouve dans ces huit versets explique comment nous pouvons avoir cette attitude de joie lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Et c'est le verset 3 et 4. Verset 3, « Car vous le savez !» Et ma question à chacun d'entre vous aujourd'hui, que savent les chrétiens qui leur permettent d'affronter plus facilement les épreuves et même d'en bénéficier des épreuves de leur vie. Que savons-nous? On a passé 40 minutes glorieuses dans l'adoration, dans le témoignage, dans le partage. Que savons-nous, les chrétiens, qui nous aident à affronter plus facilement des épreuves et même d'en bénéficier des épreuves? Comment? Dieu nous aime. Dieu est bon. Et Dieu est là avec et pour nous. Ça change tout. Dieu nous aime. On peut savoir que les épreuves dans notre vie ne servent pas à rien. Les épreuves dans notre vie ne servent pas à rien. Et notre foi est mise à l'épreuve afin d'augmenter notre foi dans ce Dieu créateur de l'univers, mais ce Père céleste qui, Michael, nous aime. Dieu permet donc que des épreuves se présentent dans notre vie afin de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, afin d'augmenter notre foi en lui. Paul, il est dit ainsi, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, comment pouvons-nous avoir une attitude de joie quand nous nous retrouvons dans une situation difficile? Nous pouvons savoir que nos épreuves ne sont pas là pour rien. Et elles produisent en nous une maturité spirituelle pour notre bien et ultimement pour la gloire de Dieu. La semaine dernière, ma femme Koudoun et moi, nous avons fêté nos 28 ans de mariage. Et quand j'ai dit ça la semaine dernière, tout le monde a rigolé à Brignou. Ils sont assez rigolos. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont rigolé. Et ils m'ont dit, mais tu viens de parler des épreuves et là, tu parles de 28 ans de mariage. Alors, je dis, non, mais là, c'était juste le début de mon illustration. Ce n'était pas le lien direct avec mon illustration. Et donc, il y a 28 ans, on s'est mariés en Autriche. Et une semaine après, on a déménagé pendant 4 mois et demi au Texas. Et ma femme, elle est jamais allée aux États-Unis. Elle n'est jamais allée au Texas. Elle a rencontré mon père, ma belle-mère et deux cousines lors de notre mariage, mais elle ne connaissait pas ma famille, etc. Donc c'était une découverte, on va dire, un peu douloureuse pour elle. Mais lorsque nous sommes arrivés, mon père, trois jours après être arrivé, il m'a pris de côté. Et là, je venais de terminer trois années d'études théologiques. Je venais de me marier. Enfin, tout était possible, Dieu est bon, la vie est belle. Là, c'est wouh! Et mon père, il me prend de côté et il me dit, mais comment est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je veux dire? Il dit, mais alors il faut savoir que mon père, il a grandi à la ferme. Il était très très pauvre. Il a commencé à cueillir le coton quand il avait 8 ans. Il a dû conduire le tracteur. C'était une pauvreté terrible qu'il a subie. Et pour lui, le fait qu'on allait devenir missionnaire, l'idée était insupportable. Parce que pour lui, j'allais devenir un mendiant professionnel. Et il m'a dit, comment est-ce que tu vas pouvoir pourvoir aux besoins de ta femme et éventuellement de tes enfants? Et ce n'était pas un manque de respect, et c'était avec une pleine confiance. Je lui ai dit, ben, Dieu, il va prendre soin de nous. Deux semaines plus tard, on a dépensé tout notre argent pour le mariage et pour le billet de retour. On n'avait pas un rond. J'espérais avoir un job en tant que remplaçant à l'école, mais ça a duré un peu plus long que prévu et on n'avait vraiment rien. Mon oncle nous avait prêté sa maison, mais on s'alimentait de notre amour l'un pour l'autre. On va dire comme ça. Et donc, je téléphone à mon père qui est devenu très, très riche. C'était un homme, est-ce qu'on peut dire pété de thunes? Enfin, il était très riche. Et donc, je téléphone à mon père, qui, par le passé, m'a toujours donné de l'argent quand j'avais lui demandé. Et je dis, hey, papa, est-ce que tu peux me prêter 200 $ le temps que j'ai un travail et que j'ai un peu d'argent? Et il m'a répondu, il a dit, j'ai pensé que ton Dieu allait prendre soin de toi. Et c'était une grosse claque. Mais c'est vrai, jusque-là, j'avais toujours dit, mais Dieu, il va prendre soin de moi, il va prendre soin de nous. Mais il y avait toujours cette idée derrière ma tête, bon, si jamais il y a des petites crises financières, mais mon Père terrestre va être là pour m'aider. Et ça m'a blessé, son propos, parce que dans l'espace d'une phrase, il a tout dit par rapport à ce qu'il pensait de moi, mes choix de vie, etc. Mais c'était une épreuve, c'était pas évident. Mais je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai jamais demandé de l'aide financière de mon père par la suite. Parce que si je vais dire que mon père céleste va prendre soin de moi, de nous, ben, ma foi, c'est une occasion de mettre ma foi en pratique. Et j'ai grandi. C'était dur avec le retour que j'avais en face de mon père terrestre, et c'était une épreuve, mais c'était une épreuve qui m'a fait grandir et qui m'a fait exercer ma foi véritable dans mon Père céleste. Que veut accomplir Dieu dans nos vies selon les versets 3 et 4 de chapitre 1 de Jacques? Que veut accomplir Dieu dans nos vies selon les versets 3 et 4? Comment est-ce qu'on le lit? Selon la version... La version que je vous ai lue, c'est l'endurance. Certaines versions, c'est la patience. La capacité de continuer à avancer sans s'arrêter. Et cette endurance, cette patience sont incontournables dans la difficulté. Parce qu'il y aura des moments, peut-être il y avait déjà eu des moments dans nos vies, où on avait envie de jeter l'éponge, à tous égards. Dieu veut que nous apprenions la patience persévérante, car cette endurance, cette patience persévérante est la clé à toute bénédiction. Si un enfant n'apprend pas la patience, un enfant ne va pas apprendre grand-chose. parce que l'apprentissage est dur. Notre fille Glenda, elle est douée, elle est surdouée. Et on a vu que de temps à autre, il y avait quelque chose qu'elle a fait. Elle n'arrivait pas tout de suite à le faire. Elle a dit, non, je ne vais pas le faire. Et on lui a dit, non, tu vas le faire. Je n'ai pas envie, je peux faire d'autres choses. Non, tu vas faire ce qui est difficile. Parce que c'est très important pour chaque être humain à apprendre la patience. Parce que sans la patience, on va avoir du mal à apprendre d'autres choses par la suite. Ainsi, Dieu utilise les épreuves pour faire développer notre endurance, notre patience et notre caractère afin que nous puissions devenir des chrétiens matures. Nous avons jusqu'à là deux éléments essentiels de ces huit versets du premier chapitre du livre de Jacques pour transformer les épreuves en triomphe, pour prendre les citrons que la vie nous tend et en faire de la bonne limonade. D'abord, compter, considérer, avoir une attitude de joie, mais ma foi, comment est-ce possible? Savoir, avoir un esprit de compréhension que ce que j'expérimente là n'est pas pour rien. Et Dieu, il m'aime et il va l'utiliser pour mon bien et pour sa gloire ultimement. Et donc, le troisième essentiel pour transformer les défis de la vie en victoire, c'est demander. Lorsque nous rencontrons des difficultés dans la vie, qu'est-ce que Jacques nous dit qu'il faut qu'on demande à Dieu? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la grâce? Est-ce que c'est la délivrance? Trop compliqué, Seigneur, délivre-moi. Qu'est-ce que Jacques nous dit qu'il faut qu'on demande lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles? Ni la force, ni la grâce, ni la délivrance. Verset 5. La sagesse. Alors, pourquoi avons-nous besoin de la sagesse lorsque nous rencontrons les difficultés? Pourquoi la sagesse? Nous avons besoin de la sagesse quand nous rencontrons des difficultés parce que on ne veut pas gaspiller les opportunités que Dieu nous donne pour mûrir. Les difficultés, on a besoin de la sagesse de Dieu quand nous rencontrons des difficultés afin de ne pas gaspiller ce que nous sommes en train d'expérimenter. Parce qu'on peut dire « Délivre-moi, 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 délivre-moi !» Et il nous délivre, et qu'est-ce que nous avons appris? Jacques nous dit « Demandez la sagesse à Dieu afin que nous ne gaspillons pas ce que nous sommes en train d'expérimenter. » Et la sagesse nous aide à comprendre comment utiliser ces circonstances difficiles pour notre bien, notre maturité, pour le bien des autres et ultimement pour la gloire de Dieu. Alors, Jacques n'explique pas seulement ce qu'il faut demander, il explique comment demander. Comment, selon Jacques, devons-nous demander la sagesse? Verset 6. Avec foi. Jacques, il compare le croyant qui doute dans sa demande de sagesse aux vagues de la mer, en haut une minute, en bas la suivante, s'agitant d'avant et en arrière. Ce genre d'expérience est preuve, en fait, d'immaturité dans la vie du croyant. Mais si nous avons un cœur qui croit, nous pouvons demander avec foi. Et Dieu nous donnera la sagesse dont nous avons besoin pour voir comment Dieu va utiliser cette épreuve pour qu'on grandisse en lui. Alors, petite révision. Face aux épreuves, selon chapitre 1, versets 1 à 8, Jacques nous donne trois éléments essentiels pour devenir des chrétiens mûrs, pour être patient dans l'épreuve. C'est quoi le premier verbe? Compter, considérer. évaluer, à avoir une attitude de joie. Nos valeurs déterminent quoi dans notre vie? Nos valeurs déterminent notre évaluation. J'ai une petite aide, même ce mot-là. Nos valeurs déterminent notre évaluation d'une situation quelconque. Deuxièmement, Jacques nous dit, deuxième essentiel, savoir, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait en tant qu'enfant de Dieu? Que Dieu nous aime et que ce que moi je suis en train de vivre n'est pas pour rien. Ce qui c'est ultimement pour mon bien et pour sa gloire dans ma vie. Troisièmement, troisième principe, lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, afin de nous aider à rendre nos épreuves en victoire, c'est quoi la troisième chose? Demander. Qu'est-ce qu'on demande? Et comment est-ce qu'on demande? Avec foi. Comment pouvons-nous avoir une attitude de joie lorsque nous sommes confrontés à des difficultés dans la vie? Premièrement, rappelons-nous que Dieu nous aime. Et s'il nous aime, il ne nous abandonnera jamais. Et de même, si nous aimons Dieu, nous aurons beaucoup moins de mal à compter, à avoir une attitude de joie, à savoir que notre épreuve n'est pas pour rien et demander la sagesse avec foi pour voir comment Dieu veut utiliser cette situation dans notre vie afin que notre foi grandisse. Alors la prochaine fois que nous rencontrons des épreuves, que la vie nous tend des citrons, rappelons-nous que par la présence de Dieu et par la grâce de Dieu dans notre vie, nous pouvons prendre ces citrons et en faire de la limonade. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai, c'est pas toujours tout le temps facile à lire. Et c'est contre-intuitif. Mais c'est ce que tu nous demandes. Et Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas seuls, que tu es là, tu es présent et que tu nous aimes. Et que malgré, peu importe les épreuves avec lesquelles nous devons faire face, tu es là, tu es notre bon berger. Et avec toi et en toi, on ne manque rien. Et même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Et tu nous donnes cette assurance que quoi qu'il nous arrive, tu es là et tu vas faire en sorte que nous puissions en faire de la bonne limonade, des citrons que la vie nous tend. Et ce, pour notre bien et ultimement pour ta gloire. Et c'est notre désir, Seigneur, que tu sois glorifié dans nos vies. Pendant les bons moments, lorsque nous sommes reposés dans les verts pâturages, et pendant les moments d'épreuve, les moments difficiles, lorsque nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, nous voulons que tu sois glorifié. Dans le nom précieux de Jésus, Amen.